Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, pendant la guerre froide, on parlait d'un monde bipolaire, divisé entre le bloc américain et le bloc soviétique. Puis, le monde est devenu unipolaire avec l'hégémonie des États-Unis et l'effondrement de l'URSS. Multipolaire, enfin, avec l'émergence de nouveaux acteurs comme la Chine, le Brésil ou l'Inde. Mais que diront les livres d'histoire de la période que l'on vit aujourd'hui ? Car toutes ces puissances, États-Unis en premier, semblent comme se replier à l'intérieur de leurs frontières, ne plus vouloir étendre leur influence, et certains observateurs parlent donc face à ce désengagement d'un monde qui devient non polaire. Qu'est-ce que cela veut dire exactement ? Doit-on voir dans cette absence de gendarmes une origine des tensions et des conflits qui éclatent actuellement ? Quelles conséquences ce retrait des grandes puissances aura-t-il ? Pour le savoir, je reçois aujourd'hui Sylvie Kaufmann, éditorialiste au Monde. Bonjour Sylvie.
Bonjour Jean-Guillaume.
Sylvie, tu signes une chronique dans Le Monde où tu expliques ce désengagement américain, mais pas que, et tu pars d'un exemple, celui des manœuvres maritimes conjointes de l'Iran, de la Chine et de la Russie, dans le but d'assurer la sécurité du golfe d'Oman où la marine marchande est l'objet d'attaques de ces rebelles houthistes dont on a déjà d'ailleurs parlé dans l'heure du monde. Alors, pourquoi cet exemple, alors qu'il semble plutôt montrer, au contraire, une mobilisation de grandes puissances ?
Alors, sur le papier, en effet, quand on voit cette nouvelle annonçant des manœuvres de l'Iran, de la Chine et de la Russie ensemble, on se dit « Ah, ça y est, ils veulent prendre en charge l'ordre régional et assurer, en effet, comme ils le disent, la sécurité ». Et puis, quand on regarde de plus près, évidemment, c'est un effort beaucoup plus limité. D'abord, il s'agit de manœuvres, pas d'une opération militaire maritime en tant que telle, pas d'une intervention. Et puis, ces manœuvres, elles durent 5 jours. Donc, on voit bien que c'est plutôt du show qu'une réelle intervention. En tout cas, ça n'est pas une opération qui est susceptible de dissuader les rebelles houthistes de tirer leurs missiles sur les navires marchands qui passent par là.
Donc tu dirais que c'est plutôt une annonce de façade ?
Alors, en plus, dans ces trois puissances qui mènent ensemble ces manœuvres, donc l'Iran, la Chine et la Russie, il faut signaler quand même que l'une d'entre elles, au moins l'Iran, est celle qui est le protecteur des rebelles houthistes et qui est très probablement son fournisseur aussi. Et l'autre, la Russie, est sans doute aussi un allié. Donc, tout ça permet de prendre un peu de distance avec cet exercice, mais c'est intéressant qu'il y ait au moins un affichage. Et puis, ça montre aussi que les États-Unis ne sont pas les seuls dans la région. Alors, en effet, au début de la guerre de Gaza, enfin après l'attaque du 7 octobre en Israël, ils ont eu cette réaction assez spectaculaire de déployer 2 porte-avions américains, d'abord en Méditerranée, ensuite il y en a un qui a été retiré et l'autre a été déplacé en mer Rouge. Donc on voit qu'il y a eu au moins une visibilité américaine. Mais en tout cas, il n'a pas du tout le pouvoir d'infléchir le cours des choses dans la région. Et on voit bien que le conflit continue.
Et donc, au Moyen-Orient, depuis le 7 octobre, qui a entraîné toute une série de conséquences, dont les attaques de ces rebelles houthistes dont tu nous parlais, aucune puissance ne parvient aujourd'hui à ramener l'ordre. Il n'y a pas de puissance dominante.
Oui, alors c'est intéressant parce que toutes ces puissances éprouvent le besoin d'être là, d'une certaine manière. Toutes ces puissances se côtoient, elles se surveillent, elles s'affrontent ou bien elles coopèrent aussi, suivant ce qui est en jeu. Mais aucune n'a un rôle dominant, aucune ne parvient à vraiment ramener l'ordre ou à imposer un ordre. Et donc, cette situation est commentée par un expert, Greg Karlstrom, dans la revue Foreign Affairs, et il décrit les choses comme ça. Il dit « Oubliez les étiquettes d'unipolarité ou de multipolarité ». Aujourd'hui, le Moyen-Orient est non polaire, personne ne commande. Et ça résume assez bien la situation, je trouve.
Pourtant, Sylvie, les États-Unis, ils ont été jusqu'à il y a peu le gendarme du monde. Et cet engagement-là, il n'a d'ailleurs pas produit que le meilleur. La situation en Afghanistan aujourd'hui, elle est aussi le produit de la guerre de 2001 et de l'occupation qui a suivi. La situation en Irak, même l'émergence de certaines organisations comme l'État islamique, c'est le produit de la guerre en Irak en 2003. Ils étaient très actifs jusqu'à récemment.
En effet, au début des années 2000, ce sont les États-Unis qui font la paix, la guerre, ce sont vraiment eux les maîtres du monde. On est à peine une douzaine d'années après la fin de la guerre froide, qu'ils ont gagné, je crois qu'on peut le dire. Et donc, il y a cette attaque du 11 septembre 2001 qui déclenche toute une série d'événements en réaction, dont la guerre d'Afghanistan, puis la guerre en Irak. Mais Toutes ces opérations se sont terminées par des échecs terribles. Elles ont complètement bouleversé l'ordre du Moyen-Orient. Et finalement, au bout de 2 décennies, les Américains ont tiré la leçon de ces échecs. Ils se sont retirés. Et plus personne ne veut entendre parler aux États-Unis, que ce soit dans la classe politique ou que ce soit dans l'électorat. Plus personne ne veut entendre parler de ces guerres interminables dans des contrées lointaines et qui se terminent par des fiascos. Donc, en effet, on est dans une situation où les États-Unis se sont repliés sur eux-mêmes pour se consacrer à leur puissance intérieure.
Et alors, la première fois qu'on tire une leçon de cet ordre-là, le premier tournant, il s'opère finalement dans les années 2010 sous Barack Obama, c'est ça ?
Oui, même un petit peu avant. Donc, Barack Obama est élu en 2008, après les 2 mandats de George W. Bush. Et George W. Bush, c'est vraiment la guerre d'Afghanistan, la guerre en Irak. Donc, Obama va être obligé de poursuivre la présence en Afghanistan. Mais on voit bien que déjà, il a tiré les leçons de cette situation et qu'il est dans une logique de repli. Et alors, en 2011, il y a l'opération occidentale en Libye. Et là, c'est très intéressant parce que ce sont la France et la Grande-Bretagne qui sont en première ligne, qui mènent les opérations, mais qui ont évidemment besoin du soutien américain, y compris opérationnel en termes d'aviation et de logistique. Et Barack Obama, dans un entretien très approfondi avec The New Yorker, utilise cette expression, enfin c'est une expression qu'on lui prête dans cet article et qui est vraiment, qui a fait date. Il dit, nous les États-Unis en Libye, we are leading from behind. Nous menons depuis, nous dirigeons depuis l'arrière. Et cette tendance va d'ailleurs se confirmer de manière assez spectaculaire en 2013, pendant la guerre de Syrie, lorsque la France et la Grande-Bretagne préparent une opération de représailles contre la Syrie avec les États-Unis, évidemment, dont la participation est indispensable pour punir Damas d'avoir utilisé des armes chimiques contre sa population. Et Barack Obama décide finalement de se retirer de cette opération qui n'aura pas lieu sans la participation des États-Unis et donc de ne pas appliquer la ligne rouge qu'il s'était lui-même fixée. Et alors, il a été très critiqué parce qu'on a dit, mais voilà, c'est ça les États-Unis, maintenant, on ne dirige plus directement, on n'est plus les premiers, on fait ça de l'arrière et on laisse les autres en avant. Et en réalité, on se rend compte que finalement, cette logique-là est menée encore plus loin aujourd'hui, puisque on peut dire que dans la situation qu'on a décrite au début de notre conversation, les États-Unis ne sont plus dans une situation où ils dirigent depuis l'arrière, mais ils ne dirigent plus.
Les États-Unis ne dirigent plus, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'influence, Sylvie, notamment en ce qui concerne la fourniture d'armes pour les conflits en cours, que ce soit à Gaza ou en Ukraine.
Alors, il est évident, tout le monde sait que sans les armes américaines, Israël ne pourrait pas continuer cette guerre à Gaza. Or, les États-Unis, l'administration Biden est de plus en plus critique de la manière dont Netanyahou mène cette guerre à Gaza, avec le coût humain que cela comporte. Mais les États-Unis, l'administration Biden ne se résout pas pour autant à utiliser l'argument ultime qui serait d'arrêter de livrer des armes. Donc, renonce à jouer un rôle majeur d'acteur dans ce conflit. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'autre grande crise internationale du moment, qui est donc la guerre que mène la Russie en Ukraine, les États-Unis sont là aussi en soutien de Kiev, du président Zelensky et des forces ukrainiennes. Les États-Unis leur livrent des armes, leur apportent une aide très importante, mais laissent au leadership ukrainien, au président Zelensky, le choix de l'issue de la guerre. C'est-à-dire, on répète en permanence, comme les Européens aussi d'ailleurs, ce seront les Ukrainiens qui décideront à quel moment ils arrêtent, ou ils continuent, ou ils veulent entrer en négociation ou pas. La responsabilité totale est laissée aux Ukrainiens.
Donc voilà pour les États-Unis, mais ce qui est intéressant dans ce monde non polaire qu'on décrit, c'est que aucune puissance ne semble prendre leur place. Par exemple, la Chine, assez naturellement, on pourrait penser que Pékin profiterait de ce repli américain, mais ça n'est pas tout à fait le cas.
Alors, la Chine et les États-Unis sont lancés dans une grande compétition. Les États-Unis ne veulent pas laisser la Chine prendre le leadership technologique, surtout. Donc, ils se surveillent en permanence et il y a une vraie rivalité. Mais c'est vrai que dans ce mouvement de repli américain de l'action diplomatique mondiale, la Chine tente toujours d'accroître son influence, mais ne prend pas le rôle d'acteur ou de médiateur qui était jusqu'ici celui de l'Amérique. Pourquoi ? Parce qu'elle a en ce moment une autre priorité qui est la relance de son économie, qui est en difficulté depuis la crise du Covid. C'est vraiment une priorité énorme. Et puis, il y a tout ce travail de construction de pouvoir personnel et de consolidation du pouvoir politique qui est en train de mener le président Xi Jinping. Et c'est aussi une, visiblement une opération qui accapare beaucoup d'énergie. Donc, on voit la Chine surveiller ce qui se passe, être présente aussi dans toutes les zones du monde, mais sans à nouveau chercher à exercer une influence déterminante qui permettrait de peser sur le cours des conflits actuels.
Sachant qu'au début de la guerre en Ukraine, Sylvie, on avait un peu l'espoir que la Chine pourrait être un médiateur qui pourrait influencer la Russie.
Oui, alors elle a vaguement laissé entendre qu'elle pouvait jouer ce rôle. Il y a de temps en temps une mission chinoise qui est menée de Kiev à Moscou, mais qui en réalité ne joue pas de rôle. Et ce que fait la Chine avec la Russie, ce qu'on observe, c'est qu'elle l'aide discrètement, parce que ça sert les intérêts chinois en réalité, que la Russie mine l'ordre occidental, mondial. Mais à nouveau, la Chine ne cherche pas à jouer un rôle vraiment déterminant qui permettrait à la Russie de remporter une victoire immédiate, par exemple, sur l'Ukraine. Elle ne lui livrait pas d'aide militaire visible, en tout cas.
Et alors, parmi les acteurs qui pourraient demain avoir envie de prendre ce leadership, qu'est-ce qu'il en est de la Russie ? On sait justement que Vladimir Poutine, il a ce dessein impérialiste, cette grande Russie puissante qu'il souhaite rétablir. Est-ce que demain, dans la tête de Vladimir Poutine, une fois la guerre en Ukraine finie, la Russie pourrait redevenir une puissance géopolitique dominante ?
Alors ça, c'est évidemment le rêve en effet de Vladimir Poutine, de rétablir la puissance de l'URSS, puisque au XXe siècle, quand on disait les deux grands, c'était les États-Unis et l'URSS. Maintenant, quand on dit les deux grands, c'est les États-Unis et la Chine, et la Russie n'est plus qu'une puissance de deuxième rang. Et plus ça va d'ailleurs, plus elle devient vassale de la Chine. Donc Poutine n'a pas renoncé à cette volonté de puissance, bien au contraire, mais il l'exerce d'une manière tout à fait négative, c'est-à-dire il l'exerce par la déstabilisation, par la désinformation. Et finalement, la Russie est devenue une sorte de puissance du chaos qui est active sur plusieurs foyers de conflit, comme on le voit en Afrique notamment.
Et dans tout ça, Sylvie, pour conclure cet épisode, est-ce que ça ne laisse pas l'espace à d'autres acteurs, justement, d'émerger ? Est-ce que l'Europe ne peut pas devenir une puissance géopolitique ? J'imagine que beaucoup en rêvent également. Ou d'autres pays émergents comme l'Inde ?
Oui, l'Europe, bien sûr, pourrait aspirer à un rôle d'acteur géopolitique majeur. Elle a la population, elle en a la taille. Il lui manque encore la structure. Et puis, c'est une volonté qui est exprimée par certains dirigeants européens, pas par tous. Il y en a encore beaucoup qui préfèrent rester à l'abri des États-Unis. Donc, finalement, même si cette aspiration à une Europe puissance ou à une Europe géopolitique est exprimée, on en est encore loin dans la réalité.
Et du côté de l'Inde ?
Ça aussi, c'est très intéressant parce qu'on voit que l'Inde est une puissance montante, ascendante, mais pour l'instant, elle peut butiner un peu partout. Donc l'Inde entretient des rapports assez étroits et assez fructueux avec les États-Unis. Mais en même temps, l'Inde va aussi voir Moscou. Le ministre des Affaires étrangères indien, Jay Shankar, était très récemment à Moscou. Il a passé 5 jours. Donc ils le disent eux-mêmes de manière très, très ouverte et très candide. Nous, on a une multitude d'options. Et on en profite et on choisit celle qui nous intéresse. Et c'est notre intérêt actuel de mener cette politique qu'on peut appeler multi-alignement. C'est un peu la formule des Indiens. Mais finalement, c'est aussi une situation de non-polarité ou de apolarité, comme on voudra. C'est assez nouveau.
Et alors, Sylvie, dernière question. La nature ayant, de manière générale, comme on le dit, horreur du vide, est-ce que cette situation apolaire, non polaire, elle peut durer dans le temps ? Est-ce que ce monde peut continuer sans que finisse par émerger une puissance qui reprenne le leadership ? Comment tu vois les choses ?
Je ne sais pas combien de temps ça peut durer, mais c'est une situation qui est loin d'être idéale. Et les conflits que personne ne gère ou que personne n'essaye de résoudre, dans la mesure où on a aussi une organisation des Nations Unies qui est paralysée justement par ce jeu des grandes puissances et ce Conseil de sécurité qui n'arrive plus à prendre de décisions, c'est très dangereux. c'est très dangereux et on le voit bien, que ce soit au Moyen-Orient ou ailleurs, on voit des conflits qui durent, qui s'aggravent, avec pour l'instant un certain nombre de puissances qui les survolent, si on peut dire, et qui interviennent de manière plus ou moins limitée. Mais ça peut aboutir à des détonations n'importe quand et donc ça n'est pas souhaitable. Non.
Merci Sylvie.
Merci Jean-Guillaume.
Cet épisode a été produit par Margot Lanuzel et réalisé par Thomas Zeng. Si vous souhaitez en savoir plus et lire l'intégralité de la chronique de Sylvie Kaufmann, je vous invite à vous rendre sur lemonde.fr. Et je vous rappelle que nous existons grâce à votre soutien. Alors n'hésitez pas à vous rendre également sur abopodcast.lemonde.fr. Vous y trouverez notre offre spécialement faite pour les auditeurs et auditrices de L'Heure du Monde. Un mois d'accès abonné gratuit et sans engagement à tous nos contenus. L'Heure du Monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. Merci de fidélité et à demain.